histoire de peinture. Aujourd'hui, pour une brève histoire du maniérisme.
En fait, si on est rigoureux, on doit dire que le maniérisme, c'est pratiquement la Renaissance elle-même. La Renaissance, c'est-à-dire le XVIe siècle. Parce que si on arrête la Renaissance à son âge classique, à son apogée classique, Raphaël à Rome, Léonard de Vinci, Michel-Ange, eh bien on va dire la Renaissance, elle a duré 10 ans, de 1505 environ jusqu'à 1515, où déjà à Rome, Raphaël montre des traits d'art di maniera. Et même la grande œuvre de Michel-Ange, la voûte de la chapelle Sixtine, 1508, 1510, 1511, eh bien c'est un répertoire d'art di maniera, et ça deviendra comme une des bibles et un des relais essentiels du maniérisme. Je pense que c'est ça une des astuces de Chastel, d'André Chastel, le grand spécialiste du XVIe siècle italien, quand il a fait ses deux livres de synthèse chez Esquira sur la Renaissance au XVIe siècle, fin XVe et XVIe. Le premier volume, il a appelé le mythe de la Renaissance, et le deuxième volume, il a appelé la crise de la Renaissance. C'est-à-dire que la Renaissance, où est-elle? Ou bien c'est un mythe, ou bien c'est une crise. Je crois que c'est une très bonne question, très bonne intuition, on va dire, de Chastel. Je dis intuition parce que personnellement, je n'aime pas le mot crise. Parce que le mot crise suppose qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait et qui entre en crise. Alors, ça me paraît impliquer une norme de perfection et qu'ensuite le maniérisme serait la crise de cette perfection. Et pas du tout. Je crois que le maniérisme, c'est une forme d'apothéose de la Renaissance. En tout cas, c'est dans l'histoire, pratiquement là, européen, tout le milieu, enfin de 1530 à 1580, c'est la pratique européenne de l'art, elle est entre guillemets maniérisme. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ce terme de maniérisme qui en fait est aujourd'hui péjoratif? Il faut vraiment étudier, réfléchir pour valoriser positivement le terme de maniérisme. Bien, il est employé, je crois, pour la première fois, maniérisme lui-même, à la fin du XVIIIe siècle, par Luigi Lanzi, dans son histoire de la peinture italienne, Historia pittorica dell'Italia, et c'est évidemment un terme péjoratif qui condamne l'affectation qui ferait que les artistes après Raphaël, eh bien, se seraient éloignés de la nature et au lieu de la vérité de l'imitation, eh bien, auraient affecté les formes par justement la manière, l'artifice, la convention, etc. Bon, Lanzi n'est pas le premier à dire ça. Lui, il crée le terme de maniérisme. Mais dès le milieu du XVIe siècle, eh bien, il y a des critiques contre Michel-Ange en particulier de la part des Vénitiens en disant que Michel-Ange est un art de manière, des manières qui n'a plus la vérité de la nature. Alors, c'est très compliqué de juger. Tous les termes de style, au départ, sont souvent critiques. Baroque, c'est pareil. Le terme de baroque est un terme péjoratif. Pour maniérisme, ça l'est extrêmement. Et, comment dire, revaloriser le terme est complexe parce que la critique n'est pas fausse, il faut bien dire, parce que effectivement, les artistes européens du XVIe siècle, les artistes maniéristes, eh bien, pratiquent un art qu'on peut appeler artificiel. Et on le voit très bien quand on étudie chez Vasari, le premier grand historien de l'art, justement, grand artiste maniériste au milieu du XVIe siècle, quand il passe insensiblement de ce qu'il appelle la bella maniera, la belle manière ou le beau style, qui est l'apogée de la Renaissance classique, avec Raphaël, etc., à l'arte di maniera, l'art de manière, l'art de style, qui est en fait le maniérisme. Alors bien sûr, lui n'a pas du tout l'idée d'une critique. Il sait qu'il y a un apogée avec Raphaël, Michel-Ange et Léonard, mais en fait, les artistes di maniera se situent dans la ligne directe et dans l'imitation, la référence à la citation des grands artistes. Mais si bien qu'au bout du compte, le maniérisme, c'est un art, on pourrait dire aussi au deuxième degré, au second degré. John Sherman, un de ses très bons spécialistes, l'a caractérisé comme un style stylé, a stylish style, très belle expression, et Montaigne lui-même, à la fin du siècle, commentant justement les formes d'art du XVIe siècle, dit « ils artialisent la nature, nous devrions naturaliser l'art ». Très belle formule, bien sûr, de Montaigne, qui se situe même comme grand écrivain maniériste, mais faisant le bilan du maniérisme et appelant à autre chose. Montaigne est passionnant de ce point de vue. Donc la critique ou la description d'un art, du maniérisme comme art artificiel n'est pas fausse, mais elle reste pour moi, et pour beaucoup d'ailleurs, insuffisante, parce que tout simplement elle manque les enjeux de cette altération. Elle manque les raisons de cette stylisation, de cette artialisation de l'art. Et elle en reste à un aspect, je dirais, purement extérieur, descriptif, en perdant, en ne s'intéressant pas aux raisons de la transformation. Je prendrai un seul exemple. La célèbre, mais inconnue de beaucoup, déposition du Florentin Pontormo, peinte en 1527 et qu'on peut encore aujourd'hui voir in situ, c'est-à-dire dans l'église Santa Felicita à Florence. Au premier coup d'œil, au premier regard, c'est un chef-d'œuvre d'artifice, d'exagération, de paradoxe. C'est une déposition, mais une déposition par exemple où il n'y a pas de croix. Il n'y a pas de croix, il n'y a pas d'échelle, donc ce n'est pas vraiment une déposition, puisqu'il faut une croix pour une déposition. Ensuite, il y a un groupe, l'ensemble, c'est un grand tableau vertical, il doit y avoir une douzaine de personnages qui se construisent verticalement depuis la base du tableau jusqu'à son sommet, et il n'y a aucun repère physique de terre, de sol, permettant de savoir comment ils se superposent les uns aux autres pour aller jusqu'en haut du tableau. Ensuite, si vous regardez un peu plus attentivement, vous verrez que le tableau, dans son ensemble, repose uniquement sur des mouvement interne du groupe de figures, et en particulier le Christ mort, qui en fait est porté au tombeau. Il s'agit plutôt, le vrai sujet du tableau, c'est les adieux de la Vierge au Christ. La Vierge s'effondre en arrière avec un geste de la main droite d'adieu, tandis que le Christ glisse de ses genoux et va être porté au tombeau, c'est-à-dire dans l'autel, puisque c'est un tableau d'autel, ce qui est au-dessous, c'est le tombeau du Christ. L'autel, la métaphore du tombeau est là. Or, le Christ a un corps très lourd, c'est une citation du Christ mort de Michel-Ange, la Pietà de Saint-Pierre, corps très lourd, très beau, très lourd, il est porté par deux personnages qui sont comme des danseurs sur la pointe des pieds. Le paradoxe, on pourrait continuer, les paradoxes sont permanents, donc comble d'artifice, et d'ailleurs, Vasari, qui n'aime pas tellement Pontormo, dit que c'est peint à l'allemande. Bon, Vasari n'est pas très honnête, parce qu'en fait, Pontormo s'inspire directement de Michel-Ange, et en particulier pour les couleurs, qui sont des couleurs complètement acides, des couleurs invraisemblables, eh bien, elles viennent directement, ces couleurs, du coloris de Michel-Ange à la voûte de la Sixtine, telles que maintenant on peut les voir restaurées. Avant la restauration de la Sixtine, on ne pouvait pas comprendre ces couleurs de Pontormo. Maintenant qu'on a vu celles de Michel-Ange, et on comprend que Pontormo, à nouveau, rend hommage à Michel-Ange, son maître absolu, en peinture. Mais tout ça, à la limite, c'est de l'artifice. Si on en reste là, on aura une très belle description du tableau, mais on manquera complètement l'enjeu de cet artifice, qui est en fait une extrême intensité spirituelle. C'est-à-dire, le tableau est de 1527. 1527, ne faut pas oublier que c'est le sac de Rome, c'est la grande année du sac de Rome, de grande crise de l'Église. Le schisme protestant est en train, en fait, de gagner du terrain derrière Luther, et la réponse de foi, F-O-I, que donne Pontormo à cette situation, bien c'est la seule réponse qu'il puisse donner, elle est intellectuelle. Il n'y a pas de réponse immédiate, à part pour un saint extatique. Les saints extatiques commencent à apparaître, à se multiplier aussi. C'est une bonne réponse à la crise, l'extase. Mais Pontormo n'est pas un extatique, et il fait en revanche un tableau artificiel, parce que la seule réponse possible, elle est intellectuelle à cette crise religieuse, parce qu'effectivement, la crise religieuse à ce moment-là. Mais cette réponse intellectuelle, elle est en même temps un appel extraordinaire au spectateur à participer dans un élan de dévotion à cet adieu de la Vierge au Christ. Alors, l'instruction pourrait continuer par la position de Marie-Madeleine, par exemple, qui est à droite du tableau, nous fait entrer dans le tableau, mais en tournant le dos. C'est-à-dire, nous ne voyons pas du tout Marie-Madeleine, ce que nous voyons, c'est juste ses cheveux. Bon, artifice complet, c'est une figure en force serpentine, tour de force maniériste également, et simplement, elle est notre entrée dans le tableau avec sa main qui tient le tissu et qui est au cœur du tableau, autour de tout gravite. C'est à nous même de faire le geste de Marie-Madeleine et de nous porter d'amour vers le Christ. Et ces enjeux spirituels ou autres, ils sont présents dans l'artialisation de l'art du maniérisme. Alors, donc, effectivement, le maniérisme s'éloigne de la nature, mais en rester n'est pas suffisant. Et moi, je préfère une autre définition, une autre description. C'est celle que donne Robert Klein dans La forme et l'intelligible, où il dit que le maniérisme est un art de l'art. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire c'est très simple. Il explique que tout art est une certaine manière de faire quelque chose. Alors, par exemple, il peut y avoir l'art de la marche. Alors ça peut aller vers la danse d'un côté ou la marche militaire de l'autre, c'est un art, il y a des gens qui savent, des gens qui ne savent pas. Tout art est une certaine manière de faire quelque chose. Le maniérisme, c'est l'art de cette manière. Et comme le dit Robert Klein, dans le maniérisme, l'attention glisse du quoi, c'est-à-dire de ce qui est représenté, au comment le représenter, et demande donc un regard d'appréciation artistique ou esthétique devant l'objet représenté sur la manière dont il représente cet objet. Alors pourquoi ce glissement du quoi au comment, du sujet représenté à la manière de le représenter, comment se fait-il que l'art de la Renaissance devienne un art de l'art de la Renaissance? Bon, alors, pour répondre à cette question, pourquoi ce glissement, je pense que le meilleur chemin, c'est de se dire comment. comment s'est fait ce glissement, et je pense en particulier à l'atelier de Raphaël. En quelques années, hein, il est fascinant de voir comment Raphaël, qui, avec la chambre de la signature, fait vraiment l'œuvre classique par excellence, hein, l'école d'Athènes et la dispute Saint-Sacrement sont des chefs-d'œuvre de la Renaissance classique à son apogée. C'est 1512-1513. Eh bien, en 1517-18, cinq ans plus tard, Raphaël, dans une pièce à côté, là, la chambre de l'incendie, à côté de la chambre de la signature, peint l'incendie du bourg, qui est un chef-d'œuvre d'art di maniera. C'est-à-dire que l'incendie est représenté, hein, mais le principal, hein, qui est le miracle par lequel le pape arrête l'incendie du Borgo en je ne sais plus quelle année au Moyen-Âge, passe absolument au second plan, minuscule arrière-plan, alors que tout le premier plan est occupé par l'agitation humaine, le drame humain, des gens tentant d'éteindre l'incendie. Alors ça c'est très bien, mais il se trouve que ces gens tentant d'éteindre l'incendie, eh bien ils sont représentés de manière parfaitement artificielle, puisqu'il y a par exemple une canéphore, hein, qui porte une jarre pleine d'eau, on l'imagine sur sa tête, eh bien elle aussi c'est une figure en fort, marchant avec une très grande élégance. On a à gauche de la fresque un personnage nu, portant son père sur son dos et un enfant à la main, citation bien sûr de Énée qui tentera en flamme, etc. Donc Raphaël, en quelques années, fait passer la peinture de l'apogée du classicisme à un art di maniera presque outrancier. Et il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, il ne s'agit pas du tout d'un art pour l'art, il ne s'agit pas d'une démonstration de virtuosité de Raphaël, mais simplement que Raphaël répond à une demande, il répond à une situation, et une situation politique et culturelle très fragilisée. Une des fresques les plus maniéristes de Raphaël, qui est le couronnement de Charlemagne, représente le pape du moment, Léon X, couronnant Charlemagne sur les traits de François Ier, puisqu'on espérait que François Ier deviendrait empereur à la place de Charles Quint à cette date. Et le maniérisme, quand il apparaît dans la peinture, avec l'atelier de Raphaël, est en relation étroite avec la pression du politique sur l'art. C'est Frédéric Hart qui l'a très bien dit, hein, le maniérisme, l'art di maniera, manifeste, exprime une crise de confiance dans les sources du pouvoir, dans l'accord entre la culture et le pouvoir, et dans l'harmonie logique et transparente des formes. La belle forme humaniste, si vous voulez, hein, eh bien, on n'y croit plus, parce que la pression politique a montré que le mythe de la Renaissance, comme disait Chastel, c'est-à-dire la plénitude des temps, plenitudo temporum, réalisée à Rome sous l'égide de l'Église, ben hélas non, il y a le concile schismatique de Pise, il y a la proclamation de Wittenberg de Luther, il y a tous les problèmes des conflits politiques à travers l'Europe, et cette première crise, hein, ces premiers moments de crise vont être confirmés ensuite tragiquement dans tout le XVIe siècle. On peut décrire le XVIe siècle comme un siècle de crise religieuse, avec le schisme protestant, qui va donner lieu au Concile de Trente, qui va durer près de 30 ans, ce Concile de Trente, pour aboutir à des solutions. Crise économique, parce que l'arrivée de l'or d'Amérique du Sud a complètement déséquilibré les circuits commerciaux européens. Crise politique, avec le fait que les grands États les plus puissants sont maintenant l'Espagne, la France et l'Angleterre, et que l'Italie, qui était centre du monde, ne l'est plus, etc. Bon, crise scientifique, Copernic, hein, la révolution copernicienne, c'est au milieu du XVIe siècle. L'anatomie du corps est bouleversée par le livre de Vézal. Enfin, le XVIe siècle est un siècle de changement et de bouleversement extraordinaire, et le maniérisme, eh bien, c'est la réponse à cette crise. Alors, réponse et à ces crises multiples. Réponse, hein, ne veut pas dire reflet. Hein, bien sûr, le maniérisme est un écho, donc il reflète bien quelque part la crise, mais surtout il lui répond. C'est-à-dire, c'est une réponse, dans certains cas, d'ordre pratiquement magique, hein, au sentiment d'incertitude, d'instabilité, de fragilité du monde. Je dirais à nouveau citer Montaigne, hein, l'essai du repentir de Montaigne je crois que c'est l'essai 2 du livre 3 de Montaigne. Montaigne dit bien, le monde est une branloire pérenne, je ne peins pas l'être, je peins le passage. C'est-à-dire, c'est ce sentiment de l'instabilité universelle maintenant du monde. Dans le fond, le cosmos, hein, est en train de se défaire et l'univers n'est pas encore là, dirait Coiret, pour prendre sa place. Et dans cette instabilité, eh bien, l'art est là pour la manifester et très souvent en jouer. Hein, ce qu'on doit bien comprendre dans le maniérisme, c'est qu'il y a une dimension très souvent ludique. Le paradoxe maniériste est très souvent un jeu. Alors là, un des exemples que je préfère, je veux dire, c'est le parc de Bomarzo, hein, qui est à une centaine de kilomètres au nord de Rome, et où on a sculpté des rochers affleurant hors du sol, hein, mais des rochers là naturellement, et on leur a donné des formes de monstres, hein, qui sortirent du sol pour dévorer les visiteurs du parc. Et surtout, on a construit dans ce parc magique et initiatique, hein, il y a tout un sens caché dans le parc, on a construit une petite maison où on peut il y a à la fois la bouche de l'enfer dans laquelle on peut entrer pour se rafraîchir, ce qui est un paradoxe, hein, c'est un gros rocher avec qui entre ici perd tout espoir, citation de Dante, l'entrée dans l'enfer, et si on entre alors qu'il fait chaud au Bomarzo, dès qu'on entre dedans, il y a une table, on s'assied. on est au frais. On est au frais dans l'enfer. Alors, on est au bord, évidemment, de l'impiété, mais c'est un jeu. Et à Bomarzo, vous avez aussi une maison qui a été construite avec un étage, mais qui est construite de travers, hein, c'est-à-dire penchée beaucoup plus que la tour de Pise. Entrer dans cette maison, le sentiment de stabilité s'efface immédiatement parce que vous restez verticaux, vous, forcément, vous-même, hein, en tant que visiteur, vous êtes verticaux, mais la maison est penchée. Donc, vous n'arrêtez pas de vous appuyer au mur parce que vous avez l'impression que vous allez tomber. En fait, le maniérisme, dans une large mesure, met en scène le trouble, hein, l'incertitude, pour en jouer, et de sa manière aussi peut-être pour en exorciser le caractère inquiétant. Alors on pourrait continuer, le maniérisme, que ce soit en peinture, en sculpture, en architecture, en art des jardins, en vêtements, etc., les cheminées maniéristes sont extraordinaires, par exemple, ou les portes d'entrée de certains immeubles qui sont des bouches dévorantes, hein, je pense au palais de Zuccaro à Rome, aussi c'est des choses à fait extraordinaires. C'est une période fascinante, hein, le maniérisme, enfin moi en tout cas elle me fascine, en particulier je crois pour le fait qu'elle croit profondément à la puissance de l'art. Hein, elle croit que l'art est une véritable puissance et que l'art peut apporter des réponses, hein, aux inquiétudes ou aux questions que pose le monde. Un des beaux exemples aussi, c'est le thème de la conversion de saint Paul, hein, qui prend une actualité au XVIe siècle extraordinaire. C'est un grand, il y a énormément de conversions de saint Paul représentées au XVIe siècle. Ce n'est pas sans raison, puisque saint Paul est à la fois un nom de pape. Il y a deux papes, Paul au XVIe siècle, Paul III et Paul IV. Au total, il y en a eu six. C'est pas mal qu'il y en ait deux en un seul siècle. Et Paul est en même temps le saint favori de Luther. Hein, Luther dit, il choisit Paul par rapport à Pierre. Donc la conversion de saint Paul, c'est évidemment un message envoyé à Luther. Luther, Paul, devra se convertir. Alors ce qui est très intéressant, c'est de voir que la conversion de saint Paul, au départ, est traitée de façon assez simple, selon la lettre du texte. C'est-à-dire, saint Paul est à pied vers Damas, et puis il tombe aveuglé, etc. Pourquoi me persécutes-tu, dit le Christ. Et bien, progressivement, le XVIe siècle, ça devient une bataille immense, un chaos cosmique. Il y a de plus en plus, la foule de soldats s'augmente, et on a l'impression que c'est une bataille, c'est au cœur de la bataille, hein, que viendra la conversion de Paul Luther. Donc, le XVIe siècle croit à une puissance de l'art, et il n'est donc pas étonnant que ce soit aussi avec le maniérisme que naisse une véritable théorie moderne de l'art. Hein. Il y a une modernité de la théorie de l'art maniériste intéressante, dans la mesure où l'art n'est plus seulement conçu comme une imitation visant à la vérité de la représentation, ce qui est encore Alberti au XVe siècle, mais l'art est conçu vraiment comme l'expression d'une idée de l'artiste. C'est tout le thème de l'idéa, hein, de l'artiste, et que le Florentin Zuccaro exprimera parfaitement à la fin du siècle avec son apothéose du dessin dans son propre palais romain, et la fameuse formule « le dessin, hein, disegno, est un signe de Dieu, un segno di Dio, disegno, est un segno di Dio », c'est-à-dire que l'esprit de l'artiste est à l'image de l'esprit de Dieu. Bon, cette théorie de la création, c'est Léonard de Vinci qui est le premier à l'avoir formulée, mais elle devient une sorte de vulgate au XVIe siècle. Donc, vous comprenez bien, la passion pour le maniérisme, c'est une période foisonnante. Je dirais simplement, c'est une période aussi spécifique. Je suis pour un emploi très restreint du terme de maniérisme. Le maniérisme a un sens, si vous voulez, si on emploie le terme dans les conditions historiques où il est valide, où il est pertinent. Par exemple, il ne faut absolument pas confondre le maniérisme et le baroque. Hein, dire, comme certains le font, que Pontormo, que j'évoquais tout à l'heure, est un pré-baroque, c'est s'empêcher complètement de comprendre Pontormo. Parce que ce qui distingue le maniérisme du baroque, entre autres choses, c'est que le maniérisme, il y a toujours un mouvement extrême, une agitation extrême, mais paradoxale, et une sorte d'involution de ce mouvement. Alors que le baroque va reprendre les formes maniéristes, hein, le mouvement maniériste, mais tous ces mouvements vont être orientés vers un point qui sera la solution de tous les problèmes de l'agitation du mouvement, et ce point, c'est le point du pouvoir. Hein. C'est Dieu, le roi, le pape. Les grands trompe-l'œil baroques donnent solution à l'agitation stérile du maniérisme.
Histoire de peinture par Daniel Arras. Réalisation Arthur Gerbeau, Jean-Michel Bernot, Jean-Claude Loiseau.